Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue sur Esprit Occitanie pour commenter cette actualité. Je suis aujourd'hui en compagnie de l'équipe habituelle, vous ne serez pas dépaysés, Jean-François Mignard de la Ligue des Droits de l'Homme, Pierre Larouille, économiste essayiste, et nous avons même un public abondant en la présence de Irène Finkel que les auditeurs de la station connaissent bien et qui est venue s'informer. Nous savons qu'elle en a besoin. Voilà, vous l'entendez rire, donc vous voyez la bonne humeur et dans le studio, le soleil et la bonne humeur. Alors, premier sujet que nous avons sélectionné pour vous, c'est les leçons de l'élection de Poutine. Donc, sans surprise, vous l'avez noté, Poutine a été réélu pour un mandat de 6 ans, le 4e à la tête de la Russie. Face à une opposition quasiment inexistante, le concurrent le plus sérieux était empêché de se présenter à l'élection. La partie était jouée d'avance. La seule inconnue résidait dans le taux de participation. On l'a vu un peu moins de 70%, ce qui est moins que la dernière fois. Et puis, on semblerait aussi qu'on a un peu bourré les urnes par-ci, par-là. Mais ce n'est pas forcément avéré, mais on le doute, on en doute fortement. Donc, on voit par là que le pays se montre quand même rassuré par le militarisme du président et même tout à fait endurant, ou peut-être, faut-il dire, indifférent, peut-être résigné à la misère et à la corruption. Mais on va y revenir tout à l'heure. Un des temps forts de l'avant-élection, car il est difficile de parler de campagne, vous l'avez compris, fut le rassemblement de soutien à la candidature de Poutine, Vladimir, qui a eu lieu dans le stade Loujniki, sous le slogan parfois très explicite, pour une Russie forte. Vous l'avez certainement noté, la thématique de la force a été abondamment exploitée par Poutine au cours de ces derniers mois. Là où en Occident, il n'est question que de soft power pour la Russie et surtout son président, seul compte la puissance militaire servie par des armes ultra-modernes. Il y a là une évolution sensible, puisque 6 ans en avant, le discours du candidat Poutine était un discours politique, clivant, traditionnel. Aujourd'hui, son propos s'est considérablement rigidifié, avec une rhétorique quasiment martiale. Le scrutin qui vient d'avoir lieu visait non pas à élire un manager politique, mais bien un chef de guerre. Et pour s'en persuader, il n'est que de voir la féerie de missiles et de lasers déployés sur un écran géant durant ce meeting du 1er mars que j'évoquais tout de suite. Comme l'a écrit un journaliste russe de l'hebdomadaire Profil, et je le cite, « La partie militaire du message Urbi et Orbi du patron du Kremlin s'apparente à une révision totale des règles du jeu dans le domaine de l'équilibre des forces militaires et politiques. » Le journal expert de Moscou, lui, cite, et il le cite avec un certain plaisir, manifestement, le courrier d'un de ses lecteurs qui dit ceci, nouvelle citation, « Un nouveau missile balistique thermonucléaire, voilà ce dont nous aurions dû nous doter depuis longtemps, cela nous aurait épargné toutes ces sanctions. » Donc voilà l'Occident prévenu, à commencer par les Américains, à qui Poutine pose implicitement un défi stratégique. Poutine est un dirigeant qui souhaite attirer l'attention, bien évidemment, et venger ce qu'on peut appeler l'humiliation essuyée par son pays après la chute de l'Union soviétique. Le président réélu fait valoir que la Russie a été ignorée, voire même méprisée à l'époque où elle était en position de faiblesse, ce qui n'est pas faux, et qu'elle est prise au sérieux aujourd'hui uniquement parce que le pays est menaçant. Poutine proclame sans s'en cacher sa volonté de restaurer la splendeur perdue depuis son premier mandat présidentiel en 2000. Il n'est d'ailleurs que de voir sa politique étrangère et surtout ses multiples interventions militaires ou ses tentatives de déstabilisation des pays limitrophes pour s'en convaincre aisément. Alors on peut citer, la liste est longue, mais enfin le Donbass et le soutien aux séparatistes ukrainiens, l'annexion de la Crimée, les survols fréquents des espaces aériens et finlandais et suédois par des chasseurs russes, le soutien aux séparatistes des provinces géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, et ceux de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Et puis, bien sûr, une politique russe du Moyen-Orient très militaire, avec le soutien au régime du boucher de Damas, mais aussi le maintien de la sécurité et de la protection des intérêts économiques russes dans la région, avec des projets énergétiques, des projets touchant l'industrie nucléaire et des coopérations militaro-techniques, notamment avec l'Égypte, la Turquie et l'Arabie saoudite. Donc, comme on le voit, des gens bien amoureux de la démocratie et des droits de l'homme. Et bien sûr, je ne parle pas du récent empoisonnement anglais, ou des récents empoisonnements anglais, puisqu'il paraît qu'il y en a plusieurs, mais encore, tout cela est pour l'instant un peu trop sur les feux de la rampe, peut-être pour le commenter. Sur cette question, Jean-François Mignard, qui est un fin connaisseur de la Russie, qui nous avait amené d'ailleurs une dame russe, une amie russe, il y a une quinzaine de jours, je crois.
Tout à fait, alors, fin connaisseur, je ne sais pas, mais je m'y rends régulièrement et je reçois des Russes régulièrement, donc je suis un peu dans le bain là-dessus. Vika, que nous avions reçu il y a 15 jours, effectivement, avait dit des choses qui étaient prémonitoires, mais elle n'avait pas trop de... De mérite à ça, puisqu'effectivement, les choses étaient inscrites dans le ciel. Pour la petite histoire, j'ai reçu aujourd'hui les premières réactions, on va dire, des Russes moyens concernant l'affaire britannique, l'affaire anglaise,
de l'empoisonnement.
Ils le vivent comme de plus en plus les Russes parlent, alors que je dis encore une fois les Russes, mais bon, si de manière dominante on peut dire les Russes quand même, les Moscovites là pour le coup, hein, on avait vu l'autre fois que c'était quand on habite au fin fond de la Sibérie à Moscou, c'est pas la même chose, mais ils le vivent comme une gigantesque manipulation des Anglais, avec un rapport qui est un rapport assez, assez maintenant du dominant par rapport, hein, avec une espèce d'humour dominant, d'humour surplombant qui est de dire ils vont bientôt se rendre compte que tout ça c'est des histoires, c'est pas nous qui l'avons fait, hein, voilà, c'est alors
la manipulation
circule par payer. Un détournement du Barbier de Sibérie, qui est un film classique, un grand des derniers classiques du cinéma russe, qui est complètement caviardé par des dialogues dans lesquels les Anglais passent pour des imbéciles et plus largement les Occidentaux. C'était juste pour situer un peu le... Voilà. Alors, l'élection, hein, je sais pas, ça vous a peut-être échappé, mais c'était annoncé d'entrée. Hein, le jour de l'élection était le 4e anniversaire du retour légitime, entre guillemets, hein, de la Crimée dans le giron de la grande patrie russe.
Le retour un peu forcé, quand même.
Ah oui,
hein,
oui, non, mais là, c'est
l'enlèvement des Sabines.
Oui, non, mais vous discutez avec les Russes et vous discutez avec une partie des Ukrainiens, ça, c'est, hein, la Crimée est russe. Et au passage, je crois que le pourcentage de Poutine en Crimée est de 94-95%. J'étais allé voir les chiffres un peu pour... Dans le Donbass, c'est ça aussi. Hein, on doit être à 92 dans le Donbass, voilà. Dans lequel on et ce qui va conforter encore une fois les Russes dans le fait que c'était légitime. Voilà. Alors, j'ai rien d'autre à dire que ce qui a été dit dans ce magnifique et brillant éditorial.
Voilà, reprenons la vieille tradition.
Bien sûr, bien sûr. Il me semble quand même qu'il y a cet éditorial, si j'ose me permettre,
attention, n'allez pas trop loin quand même.
Manque quand même dans ce que notre éditorialiste brillant, donc, à brosser le paysage de la Russie. C'est que par ailleurs, quand même, hein, c'est un pays qui est un pays... Alors un pays, là aussi, hein, c'est un continent, la Russie. Hein, c'est pas un pays, c'est énorme. Quand on raisonne, il faut avoir ça en tête, quand même. Hein, et est un pays qui va mal économiquement. Il va bien politiquement, on va dire. Politiquement, au sens, il y a une très forte identité. Mais c'est quand même... Et Poutine est en train de jouer aussi quand même le jeu de l'unité, parce qu'il aurait des choses à se faire pardonner du côté de l'économique. Alors, bien sûr qu'il y a le patriotisme, hein, qui va expliquer effectivement que le blocus, et les magasins moins bien fournis en qualité, pas tellement en quantité quand on y va, mais en qualité... Hein, c'est un problème aujourd'hui pour les Russes, mais c'est un pays qui est un pays qui ne va pas très bien, qui a quand même une économie de rente qui est liée au pétrole et au gaz, et qui jusqu'à présent n'a pas trop réussi à trouver une diversification suffisante. Et Poutine est en train de réussir à le masquer, hein, mais je ne sais pas trop le temps que ça va durer. Hein. Pour le moment, c'est les bruits de bottes qui couvrent ça. Hein. Les bruits de bottes, alors, avec toujours cette espèce de discours qui est assez typique des Russes, que tenaient aussi les Soviétiques, c'est on est puissant parce qu'on est pour la paix. Hein, si vous n'avez pas qu'un parabellum, je pourrais le dire en russe.
Ce n'est pas du russe, ça.
Ça, c'est pas du russe, c'est du latin, voilà. Hein.
Et les Russes sont des chroniqueurs multilingues.
Ce discours-là, hein, quand vous discutez avec un russe, il vous dit non, nous, on est forcés de s'armer parce que les autres sont agressifs, parce que nous sommes un peuple qui est un peuple de paix. Et Poutine, j'ai assisté, moi, au vœu en 2000 de cette année, a remis le couvert, hein, a remis le couvert sur cette idée-là. Dernier élément, le discours qu'il a fait, hein, quand il a gagné, hein, il a fait un discours qui était un discours. Alors là aussi, peut-être, c'est quand on l'écoute. Et en gros, il a dit, il va falloir peut-être penser aussi à la qualité de la vie, au niveau de vie des Russes. Hein, voilà. Ce qui veut dire qu'il mesure bien, quand je dis « il », ses collègues du FSB et les oligarques, les néo-oligarques poutiniens qu'il a autour de lui, hein, mesure bien quand même que c'est pas les Russes ont encore en mémoire très très douloureuse les années 90, Eltsine, où vraiment l'économie s'est effondrée, mais quand même c'est pas, hein, il mesure bien que économiquement c'est pas terrible, avec une question absolument il n'y a pas de contre-pouvoir. Alors, il est démantelé, le contre-pouvoir, hein, en Russie. Bien sûr que Poutine n'hésitera pas, et d'ailleurs, il a rarement hésité à minima foutre en tôle les opposants. Hein, on a vu Navalny, enfin, etc., etc. Mais rappelons-nous ce que disait Vika, je crois qu'il est très fort. Hein, il n'y a pas de société civile en Russie. Hein, il n'y a pas d'opposition qui est une opposition autre que sous une forme qui est une forme qui est directement liée à... Alors, j'ai lu un article, là, pas plus tard que ce matin, en préparant l'émission, parce que je prépare l'émission, parce qu'avec les éditoriaux un peu brillants qui, on est obligé de tenir la qualité derrière.
Il va me demander l'augmentation.
Un article que je trouve qui était très intéressant, qui dit que la Russie n'est pas un état de droit, c'est un état de puissance. Hein. Et ça m'a fait écho, parce que dans cet éditorial, à un moment donné, deux ou trois fois est venu ce terme de puissance. La Russie n'est pas un état de droit, c'est un état de puissance. Et les Russes sont contents parce qu'ils se sentent puissants. Et d'une certaine manière, s'ils ont le choix entre la puissance et le droit, aujourd'hui, ils ont tendance à choisir la puissance, et Poutine leur offre la puissance.
Pierre Larouille.
Oui, d'abord, je ne peux que... qu'abondé, l'édito était tout à fait remarquable. Et cet édito parlait effectivement de martial et plus marxial, parce que visiblement la Russie n'a plus grand-chose à voir avec notre grand barbu.
Mais avec le moustachu, par contre, oui, mais pardon.
Oh, vous allez un peu loin. En fait, en vous écoutez, je suis moins connaisseur que vous. Il y a deux choses qui me frappent. La première, on parlait l'autre jour de l'Italie et des élections en Italie, et d'une certaine manière, d'un raz-de-marée qui est similaire, simplement qui s'appelle le populisme. Et aujourd'hui, on a un raz-de-marée que Mignard décrit très bien, qui est le raz-de-marée de la puissance. Et à vous écouter aussi, et sans vouloir vous faire injure, parce que je vais me l'appliquer à moi-même, on sent surtout qu'on est gêné aux entournures parce qu'on n'a pas vraiment de grille d'analyse et de compréhension pour dire quelque chose d'un peu pertinent. Parce qu'une fois qu'on a dit que oui, c'était de l'autorité, que oui, il y avait un bruit de bottes, que oui, on mettait en tôle les opposants, oui, mais il y a plein de pays aussi où cette autorité a été battue en brèche par des oppositions fortes, par des rébellions organisées, etc. Donc, ce qui finalement m'intéresse... c'est cet insaisissable que nous avons en face de nous. Et donc, je m'intéresse à eux et je m'intéresse à nous pour me dire comment ça se fait que l'ensemble des critères que nous prenons habituellement pour juger nos propres gouvernants, visiblement, ne s'appliquent pas. On voit bien que l'économique n'est pas dominant. On voit, semble-t-il, que l'autorité et la puissance, ça, oui. On voit que la fierté, ça, oui. On voit aussi, peut-être... entre les lignes, quelque chose qui serait l'envers du populisme, ou la même chose, allez savoir, qui est que Poutine, d'une certaine manière, a une sorte de netteté de sa politique. Ça ne tergiverse pas. Je pense que notre président Hollande ne retrouverait pas ses petits dans son art de la synthèse. Là, visiblement, l'art de la dialectique Hegeliens et marxistes et rester vrai, il y a vraiment, on peut y aller au scalpel. Donc voilà, je suis interrogé sur le fait que ce pays qui est puissant, moderne, mais en même temps en crise, il a quand même autant une puissance de sublimation donnée par son peuple et par ses gouvernants que par sa réelle puissance militaire ou économique. C'est un pays qui fait peur, mais au-delà, finalement, de sa propre force. Et d'une certaine manière, en creux, nous voyons, en disant des choses comme ça, que nous dessinons notre propre faiblesse. Et du coup, on voit ces derniers temps, et je vois là le colloque sur la laïcité qui se prépare avec notre ami Mignard, et tout ça est très important, mais on sent bien que notre société de progrès enfante une fragilité et que nous avons beaucoup de mal à trouver un corpus de discours fédérateur qui dépasse les crises politiques passagères ou les enjeux politiques ou économiques passagers. Donc voilà, j'en reste sur cette interrogation, mais qui finalement ressemble à la conclusion du Mignard tout à l'heure, même si je le mets peut-être à front renversé. C'est on peut s'interroger au début de ce troisième millénaire sur les modèles économiques et politiques qui sont capables de prendre en charge deux choses. Une mutation technologique qui correspond à une puissante modification mondiale, évidemment, de l'ensemble des pays, de l'ensemble de la vie sociale. Et deuxièmement, tiens, ça vous rappelle sans doute 68, la même chose, c'est une nouvelle réorganisation du monde. Et souvenez-vous que si 68 avait fait son lit sur la fin des guerres coloniales, on a l'impression que s'il se passait aujourd'hui quelque chose, ça serait plutôt dans le lit d'une réorganisation de l'ensemble des guerres ou des grandes guerres planétaires. Donc je trouve que cette élection de Poutine a au moins le mérite de nous mettre un petit peu en difficulté.
Ah oui, ça nous met en difficulté, mais c'est quand même un mouvement qui s'étend. On voit la Chine, c'est pareil, hein, le président vient de devenir potentiellement un président à vie. Erdogan, c'est pareil. On a la Corée du Nord. Donc il y a quand même une tendance aujourd'hui à balayer un peu la démocratie. Et alors, curieusement, nous, on se plaît en France, me semble-t-il, mais certainement à juste titre, d'être gouvernés, non pas par la politique, mais par l'économie. Et eux, ce que disait Pierre Larouille, mais je pense que Jean-François va y souscrire, eux, ils sont gouvernés pas par la politique, mais pas par l'économie.
Non, ils sont effectivement gouvernés par des figures et des modalités d'organisation de rapports sociaux qui sont pas liées forcément, effectivement, qui sont pas liées à l'économique, mais... Voilà. Alors, là, combien de temps ce genre de choses-là dure ?
L'économie, voilà. C'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. Il y a quand même des gens qui souffrent en Russie. Est-ce oui. que les sommes colossales qui doivent être dépensées sur les théâtres militaires extérieurs, est-ce que ça questionne les Russes ? Est-ce qu'ils se disent, finalement, c'est de l'argent foutu en l'air ? Ou pas, ou est-ce bon, que
moi, pas ma connaissance. Pourtant, je pense que je fréquente les gens qui seraient peut-être les plus à même de pouvoir avoir ce genre de discours critique. Hein, parce que ça débat, parce que c'est... Hein, mais je pense pas. Je pense pas parce que, encore une fois, on n'a pas... Je le dis, je sais pas si... C'est pas qu'une pétition de principe, c'est pas que des mots comme ça. Hein. Le fait que ce soit une société qui est... qui donne la transition, dans la sortie du entre guillemets socialisme réel, s'est fait sous l'autorité de gens qui en venaient. Hein, c'est pas une opposition qui a, hein, c'est pas une opposition venant de la société qui a combattu le Parti communiste de l'Union soviétique. C'est les propres cadres hein, du parti. Qui se sont eux-mêmes mis en enquête de faire évoluer ce genre de choses-là. Autrement dit, on n'a pas de tradition, effectivement, qui soit une tradition, qui est une tradition d'opposition. Et Poutine, à partir du moment donné où hein, il a une opposition en face, il joue sur quelque chose d'assez fort, hein, qui est que ce soit une opposition entre guillemets société civile ou que ce soit une opposition politique organisée. un minimum organisé, on va dire, c'est que ces gens-là ne sont pas des Russes, ce sont des gens qui sont des agents de l'étranger. Et les associations sont... faut savoir que les associations de défense des droits étaient obligées de se faire enregistrer comme étant des associations financées par l'étranger, ce qui est le terme de réglementaire juridique aujourd'hui des associations, donc sont marquées d'une certaine manière au fer rouge. Donc pour le moment, on ne voit effectivement rien venir et les gens sont... Alors, sur la démocratie fragile, bien sûr que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, que je disais cette espèce de regard un peu surplombant et avec un jouant sur l'humour. Nous sommes vécus comme étant faibles, nous sommes faibles parce que nous nous laissons envahir par les étrangers. Alors que non, on ira les buter jusque dans les chiottes, ça c'est du Poutine dans le texte, parce qu'on laisse faire des choses qui sont des choses contre nature. Les homosexuels se marient en France, c'est quelque chose qui... Moi quand je vais en Russie, alors ça s'est calmé un petit peu, mais peu de temps, j'y suis allé peu de temps après qu'il y ait eu cette loi, c'était un truc, ça les faisait rigoler. Voilà, ils disaient, mais c'est vrai cette histoire-là, c'est pas de la propagande, quoi. Ils en arrivaient à douter. Parce qu'on est quand même dans un truc qui est un truc très, très, très organisé, très structuré. Voilà, et nous sommes effectivement fragiles. Alors, je pense que nous sommes fragiles, effectivement. Je le pense réellement. La démocratie, c'est plus fragile que la dictature, d'une certaine façon. Et c'est plus difficile de créer un espace qui est un espace vide dans lequel vont cohabiter individuellement et collectivement des gens qui ont des références et des valeurs différentes, que d'avoir un espace qui est un espace balisé, qui est celui que balisé par une religion qui est une religion d'État, balisé par une identité collective qui est liée à la je parle de la Russie, mais Erdogan en Turquie, pour le coup, effectivement, c'est pareil. Et même en Hongrie, on a ce genre de choses-là. Nous sommes effectivement, de ce point de vue-là, fragiles, bien sûr.
Alors, avant de passer la parole à Pierre Larouille, justement une question pour Pierre. On a l'économiste est là. Comment un pays qui ne vit que sur la rente, donc rente gazière et pétrolière, on s'est très menacé peut-être par l'extraction du gaz de schiste américain aujourd'hui, qui est un véritable concurrent direct pour eux, un pays qui n'est pas spécialement industrialisé et un pays qui subit en plus un certain nombre de sanctions qui ont quand même un impact, comment ce pays arrive-t-il à tenir? On a bien compris que le verbe est la force militaire, mais ça n'a qu'un temps. Comment, après, l'économie va reprendre ses droits, comment ça va pouvoir marcher? Pierre Larouille.
Mais je ne sais pas si ça marche, mais j'ai envie de réunir quatre termes, dont la plupart étaient déjà utilisés tout à l'heure dans mon intervention. On a dit autorité, on a dit clarté. J'ai envie de rajouter matière première, effectivement, et historique. Et ça explique pourquoi, dans cette restructuration mondiale qui est en train de se produire, eh bien, les Russes sont des alliés assez évidents pour un grand nombre, sûrement pas de grandes démocraties, mais de pays qui bougent, qui ont eux-mêmes des forces, et qui, d'une certaine manière, et j'en reviens à ça, c'est on voit bien comment, à partir de rien, nous est renversé un rapport de force qui n'est pas assis sur l'économique, effectivement. C'est une relativisation parce que, encore une fois, c'est un choix de modèle, un choix de regard. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur la fragilité de la démocratie, il nous est aussi imposé là, dans cette restructuration du monde. Pourquoi ? Parce qu'en 2001, quand deux avions ont frappé les tours, on avait une photo glacée, fixe, je vais d'ailleurs y revenir parce que c'est, me semble-t-il, intéressant, qui disait l'axe du bien, l'axe du mal. Vous êtes dans la tour ou vous êtes dans l'avion. Et il y a quand même un grand nombre de gens de gauche et d'extrême gauche qui, à cet instant-là, pour la première fois depuis très très longtemps, ont vécu la difficulté de tenir les propos un peu romantiques qu'ils tenaient, y compris d'ailleurs sur le terrorisme. Donc il s'est passé quelque chose de violent qui mène notre fragilité et notre définition de la fragilité relativement en péril. Je reviens sur cette image fixe. Il ne vous a pas échappé qu'on a eu pendant 24 heures pratiquement cette seule image des Twin Towers. alors que nous étions en face de la plateforme de CNN avec 20 caméras dessus. Et on s'est aperçu a posteriori que des images, il y en avait plein. Donc ce qu'il y a de curieux, et ça a été exploité tout de suite par les Américains, c'est qu'instantanément est apparue une vision qui correspond bien à celle de Poutine aussi, qui leur va bien, qui est une vision duale, l'axe du bien, l'axe du mal, et il s'agissait bien dans cette photo que les gens prennent leur camp. On était bien sur une photo rigide, figée, qui nous imposait un choix douloureux. Et il n'y avait pas de nuance apportée par la troisième dimension ou par la multiplicité des regards. Alors oui, la démocratie est fragile et c'est naturel par rapport à tout ça, mais oui aussi, il ne faut pas en faire une autosatisfaction permanente. C'est-à-dire que la démocratie aussi doit penser sa fragilité. C'est quoi penser sa fragilité ? C'est d'abord penser sa propre force en isolement. C'est qu'est-ce qu'on porte ensemble ? Il me semble que la plus grande fragilité de la démocratie aujourd'hui, ce n'est pas tellement tout ce qu'on raconte, c'est finalement ce qu'elle porte comme valeur, mais c'est son incapacité progressive à faire qu'il y ait un socle commun. C'est quand même ça, malgré tout, qui ne nous tient plus et qui est bien au-delà de l'économique et qui fait, encore une fois, que l'éclairage qui nous est donné par l'élection de Poutine est un questionnement, il me semble, extrêmement riche pour nous. Et je vois qu'on est quand même assez à poil, je dois dire, pour dire des choses un peu malines là-dessus, mais il y a sans doute des experts qui doivent répondre. Mais nous sommes en difficulté.
Écoutez, je pense qu'on va, pour l'instant, clôturer là-dessus.
Je pense d'y revenir assez régulièrement. Oui.
Allez, sujet suivant, qui est le projet de loi PACTE et la démocratisation de l'entreprise. Vous savez que le gouvernement a décidé de booster les entreprises, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour la booster, il a élaboré une loi qui est dite loi PACTE. Donc des consultations ont été lancées. Avec ce commentaire de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, je le cite, « L'objectif, c'est que les salariés soient davantage associés à la marche de l'entreprise. » Autrement dit, ça veut dire qu'on va apporter, ou on voudrait apporter la démocratie dans l'entreprise. Alors, c'est une révolution dans ce secteur où, jusque-là, la seule raison d'être d'une entreprise, si l'on en croit notre code civil, dans ses articles 1832 et 1833, c'est le juriste qui parle, c'est de se partager les bénéfices uniquement dans l'intérêt des associés. Point fin. Hein, il est vrai que, quand même, dans une époque où la pression sociale s'accroît dans un sens de plus de respect des salariés et d'éthique, on se trouve que c'est peut-être un peu court et que le code civil manque de souffle. Dès lors, si le président de la République va au bout de sa démarche, force lui sera d'arbitrer cette question fondamentale de savoir si l'entreprise doit représenter les intérêts de ses actionnaires ou être pensée compte tenu du pouvoir qu'elle exerce sur la vie des gens et sur la planète, et donc en fonction de la société en son ensemble. Ce qui, dit comme cela, paraît être une révolution profonde de la conception du rôle de l'entreprise, mais ça ne choque pas apparemment certains grands patrons. On va citer par exemple Emmanuel Faber, qui est le PDG de Danone, ou celui de Veolia, Antoine Frérot, et ce dernier déclarant tout tranquillement « Ce serait un symbole fort de rappeler tout ce qu'une entreprise apporte et le fait qu'elle ne sert pas seulement les actionnaires et les patrons. » Donc vaste débat dont on peut se demander s'il accouchera d'une souris ou vraie révolution de cette question qui impacte notre société tout entière et son quotidien. Un des thèmes principaux de la consultation lancée par la ministre de l'économie, c'est celui-ci, faire de l'intéressement et de la participation une réalité pour tous les salariés dans une logique de partage de valeurs. Mais très curieusement, la gouvernance des entreprises ne joue qu'un rôle très secondaire dans la consultation qui est censée préparer la loi PACTE. La représentation des salariés, loin d'être considérée comme un atout pour les entreprises, est toujours vue comme un obstacle à sa bonne marche. Nous sommes loin, donc même très loin, du fameux modèle allemand. Une culture juridique allemande qui conçoit la société comme une association de communautés organisées, Gemeinschaften. Je dis ça parce que l'allemand était ma première langue de temps en temps. J'ai une réminiscence.
On le sent bien.
Donc, une association de communautés organisées coordonnées par l'État. Même la constitution de Weimar de 1919, à laquelle les Allemands sont revenus après la parenthèse du nazisme, prévoit dans son article 165 une collaboration sur un pied d'égalité des salariés et des employeurs au sein de différentes communautés professionnelles. Et c'est cette co-détermination, Mitbestimmung, qui est en marche.
Alors, il va falloir se poser les bonnes questions, et celles-ci ne manquent pas, comme par exemple, par quel mystère acceptons-nous d'être commandés dans les entreprises d'une manière que nous réprouvons par ailleurs ? Dans quelle mesure peut-on parler de démocratie au sujet d'organisations qui ne fonctionnent pas comme des États, et elles en sont loin ? Ou bien, par exemple, la démocratie est-elle conciliable avec le principe managérial d'efficacité et avec l'impératif actionnarial de profit ? Voilà, le débat est ouvert. Pierre Larouille.
En effet, vaste débat. Pour essayer de l'appréhender, parce que c'est multifacette, hein, cette excellente introduction d'ailleurs nous le rappelle. Alors, moi je pense que ça n'a aucune chance de réussir, tout ça, sans un projet politique et une action politique beaucoup plus forte que des débats démocratiques au sein de l'Assemblée. Je vais y apporter une nuance. Est-ce que cette loi est dans l'intérêt du politique aujourd'hui, quel qu'il soit ? Alors oui, c'est dans son intérêt. Pourquoi ? Parce que le politique s'est débarrassé, non pas du pouvoir, mais même de sa capacité à influer. Le monde est en train de se réorganiser de manière globale, de manière technologique, est en train de s'organiser, j'allais dire, autour de la science. La technofinance a complètement pris le pouvoir sur le politique. On voit bien notre incapacité, quelles que soient les choses. Alors, on corrige, on va essayer de taxer un peu les GAFAM. En réalité, les questions, vous l'avez vu, qui sont sur la table, c'est est-ce qu'il existe encore des gouvernements à l'heure où ces multinationales de la donnée sont en train de mettre le monde et l'intelligence d'organisation en coupe réglée. Alors, il se passe un phénomène très simple de théorie des jeux qu'on connaît depuis très longtemps. On a connu ça à une époque quand le pouvoir politique jouait. D'un côté, il y avait les producteurs, pour faire simple, et de l'autre, les banquiers. On va appeler ça la monnaie, la création monétaire. Et en fait, tant que le politique pouvait jouer de l'un sur l'autre, les grands débats entre le Banking School et le Currency School, ben, tout allait bien parce que sa capacité d'arbitrage, d'alliance, faisait qu'il avait un réel pouvoir. Mais aujourd'hui, cette loi, qu'est-ce qu'elle révèle ? C'est qu'il n'y a pas de producteurs. Il n'y en a plus. Le monde économique, il n'est pas géré par des patrons. Il est géré par des algorithmes et par du fric. Et donc, nous nous retrouvons dans un jeu à deux qui est en plus totalement asymétrique et où on fait... La technofinance ne laisse au gouvernement qu'une chose, c'est un peu le pouvoir régalien, parce que de temps en temps, quand même, il ne faudrait pas qu'ils se fassent trop taper dessus à un endroit où ils iraient marcher sur des plates-bandes. Donc le politique, aujourd'hui, il a besoin de se ressaisir du dossier, c'est-à-dire de refaire exister la production. Mais pour la faire exister, ce n'est pas joli, parce qu'on passe notre temps. Vous savez bien, nous, gens de gauche... On est de gauche, je suis pas. Enfin, voilà, voilà. Alors, nous, gens de gauche ou de droite, on a l'habitude, hein, on crie sur le patron, on crie sur le truc, on a des vieux réflexes. Mais enfin, objectivement, c'est un peu plus complexe que ça, aujourd'hui, le jeu. Alors, je pense que c'est assez subtil, ce que tente le gouvernement, c'est de faire revenir le patron par le biais du salarié. Et ça, c'est finalement assez malin, parce que d'une certaine manière, je dirais qu'on cherche à remettre sur la table un jeu à trois avec un pouvoir politique, la technofinance, et quelque chose qui associerait, de manière assez curieuse, l'ex-lutte de classe qui deviendrait au contraire un seul joueur qui se disputerait évidemment un bout de beefsteak sur l'intéressement, sur la démocratie à l'entreprise et tout ça, mais qui d'une certaine manière serait un bloc contre la technofinance. Et donc, je pense qu'il y a là peut-être une stratégie gagnant-gagnant, un peu paradoxale. Je vois vos gros yeux. Mes propos sont peut-être un peu décalés. Néanmoins, j'y vois. Et du coup, je ne veux pas être trop loin là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais évidemment que tout ça est lié à un deuxième aspect. C'est qu'est-ce que c'est l'entreprise ? Qu'est-ce que c'est la valeur ? Et qu'est-ce que c'est la production de valeur aujourd'hui ? Dans une période, 68 est né du fait qu'on changeait de modèle productif, on rentrait à la société de consommation, et souvenez-vous, Pierre Vianson-Ponté, qui après les situationnistes dit « la France s'ennuie », en réalité, c'est quoi ? C'est de découvrir qu'on va rentrer dans une machine productive, où même les exploités se retrouvent finalement coupés de leur logique de travail. Métro, boulot, dodo. Eh bien, aujourd'hui, on est quand même dans une mutation de même niveau. On voit bien que le capital d'une entreprise, on le voit avec les GAFAM, c'est le réseau, et plus qu'on connaissait avant les clients et les marchés de manière simple. Donc voilà, tout ce monde est en train de bouger. Et je me dis que si cette loi met au cœur du système, effectivement, cette volonté politique de redonner du jeu et du rapport de force, c'est intéressant. Je pense que si ce n'est pas accompagné d'un mouvement social et un peu plus sublimement puissant, ça a peu de chances d'aboutir sur des grandes choses au Parlement.
Alors Jean-François Millard, sur cette thèse...
Pierre Laouy m'a inquiété à partir du moment donné. Il a dit « nous de gauche ». Alors là, je me suis dit
oui,
«
oui,
là,
on va-t'en oui. ».
C'était quasiment stratosphérique. Non, et là, pour le coup, il changeait de monde. Non, il faudrait là aussi prendre du temps sur la technostructure. Elle est où ? Mais il faut que j'y travaille dessus, certainement. J'ai du retard. C'est la technostructure qui serait quelque chose, quelque part, qui aurait un pouvoir sans aucun contrôle et dans un jeu qui est un jeu qui est invisible, où on ne voit pas les rouages, on ne voit pas les rapports de force et tout ça. Bon, voilà, ça demanderait... Donc j'ai du mal avec ça, je dois avouer. Après, sur la question... Alors, J'entends le terme, ça fait écho chez moi au terme de démocratie sociale, cette question-là. Autrement dit, peut-on imaginer, au-delà de la démocratie politique, quelque chose d'ordre de la démocratie sociale ? Je vais être beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup moins englobant que l'intervention précédente. Il faudra mesurer le niveau de contrainte hein, au-delà effectivement du fait qu'il faut que ce soit traversé par un souffle qui fasse que les gens veuillent y aller. Il faudra mesurer le niveau de contrainte que cette loi-là, compliquée puisque alors si j'ai bien compris, qui s'adresse aussi de façon annoncée au moins au début comme étant plutôt en direction des petites entreprises ou des moyennes entreprises. On n'est pas dans l'idée de... Le contexte derrière aussi, c'est de relancer un niveau de tissu économique qui est... Moi, j'avais lu ça au moins au démarrage. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je suis pas du tout sûr que les acteurs... Alors, parce que moi, je distingue quand même... Les actionnaires et les patrons des ouvriers ou des producteurs, parce que je pense que c'est des gens qui ont des intérêts convergents, divergents. Ouais, voilà, les deux, ils sont en tension. Je ne suis pas du tout sûr, moi, je suis très, très perplexe sur le fait que... Et d'ailleurs, du côté du MEDEF, tout ça est très beau, mais soyez sérieux, je pense qu'il faut... En quoi ça va être contraignant à un moment donné pour prendre un certain nombre de décisions ? C'est-à-dire jusqu'où le gouvernement va-t-il être capable d'aller, y compris s'il veut faire avancer un certain nombre de choses, pour donner un pouvoir réel, par exemple, aux salariés à l'intérieur de l'entreprise, au détriment de la logique qui est la logique napoléonienne du code civil, qui est de dire, en gros, voilà, c'est là pour que les gens ils se mettent en commun de l'investissement pour pouvoir, à la sortie, se partager les bénéfices. Voilà. Je suis assez perplexe, moi, par rapport à ça. Je suis pas du tout... la question de la... C'est très personnel, la question de la participation, de la décision partagée, des choses comme ça. Moi, on produit, on vend un SEP, je trouvais que c'était très sympa en 76. J'étais plutôt de ce côté-là que du côté des grands bataillons cégétistes et du PC traditionnel qui voyaient là-dedans des délires petits bourgeois et des manipulations possibles par le grand capital. Mais alors... Peut-être que c'est trop tard ou c'est à côté et qu'en fin de compte, tout ça,
c'est une vraie question, comme on dit à France Culture. Le pouvoir n'est pas dans le politique, le pouvoir pourrait ne pas être dans l'entreprise, parce que tout compte fait, confronté à une économie mondialisée, hein, avec des contraintes qui sont des contraintes, peut-on se payer le luxe d'avoir un fonctionnement qui soit un fonctionnement démocratique, dans lequel on prenne le temps de débattre les intérêts divergents pour prendre des décisions par des gens qui ne sont pas forcément compétents, quoique quand on voit les gens qui prennent des décisions, à l'heure actuelle, c'est pas plus. Hein, voilà, c'est ça me laisse perplexe.
Ça se voit.
Oui.
Il est dubitatif même, ce qui ne veut pas dire éjaculateur précoce. Oui, c'était Pierre Desproges qui le précisait.
Oui, hein, la dernière fois, ça a été mal pris. Ça a été dit à ce micro et il y a des gens qui l'ont mal pris. Moi, non, mais voilà.
C'est pour ça que j'avais à cœur de le replacer.
Il faudrait quand même rajouter où je me suis trompé, mais il y a un volet de la loi où on va voir si ça avance, qui porte sur la comptabilité en quelque sorte. Quand on définit effectivement la richesse, la production et donc la comptabilité, là, on commence à toucher à quelque chose qui s'appelle le modèle de production.
Oui.
Je pense par exemple que si on est en tant soit peu écologiste, que finalement tout le monde devrait être aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde l'est.
Tout le monde dit qu'il l'est.
La Cour des comptes, non. Mais
bon, alors, supposons que.
Justement, parler de comptabilité, là, pour le coup.
Si on veut parler d'un modèle de production écologique, il faudra, de toute façon, que la comptabilité s'adapte à cette donnée. On peut.
La responsabilité.
Aujourd'hui, encore une fois, la mutation de la logique de production, de la valorisation des entreprises, etc., nécessite, de toute façon, une appréhension en termes de comptabilité. Mais derrière la comptabilité, il y a aussi une appréhension de l'action publique. En fait, qu'est-ce qu'on constate ? On l'a vu dans les grands débats sur le CICE. C'est que chaque fois que l'État veut faire quelque chose, il prend un marteau-pilon pour tuer une toute petite fourmi. On dépense 10 pour faire 1. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable de descendre dans de l'action discriminante. Et c'est dû en grande partie au fait que nous avons une comptabilité des normes et des critères qui sont totalement dépassés et obsolètes. Au moment où c'est le réseau qui valorise les entreprises et pas la production, on ne peut pas...
Voilà.
Donc, je crois que tout ça est lié, et c'est pour ça que je disais en amont, je trouve que c'est passionnant comme ouverture de débat. Je pense qu'ensuite, ça va se concentrer sur un débat politicien, et intéressant. On va dire un peu plus de démocratie, un peu plus de participation. C'est très bien, c'est très bien. Mais la question de fond qui est-ce qu'on redonne du pouvoir politique, parce que c'est vraiment ça, la démocratie, dans l'enjeu économique, et donc comment on pèse face à la technofinance. Donc moi, je suis plus marqué que Mignard là-dessus. Je crois que réellement, il y a une organisation par les algorithmes et par la data au niveau mondial qui va à une vitesse croissante. Et je crois qu'effectivement, il faut introduire dans l'économie des souplesses, des éclairages qui se traduisent dans la comptabilité et dans la capacité d'agir. Donc il y a un double front, qui est un front exigeant et politique, qui est de restaurer un jeu à trois et de restaurer la place du producteur et du salarié en même temps. Et de l'autre côté, sans nul doute, de revoir la copie sur l'ensemble, mince affaire, de l'ensemble de la comptabilité, à la fois des entreprises et publiques, peut-être demain.
Oui, on s'est quand même beaucoup rapproché de la comptabilité anglo-saxonne. On y vient de plus en plus, qui est quand même beaucoup plus en prise avec l'économie réelle, me semble-t-il. Mais vous n'avez pas parlé de ceux qui ont le pouvoir des entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire les fonds de pension, parce qu'on dit des actionnaires, mais c'est qui les actionnaires ? Hein, ce sont souvent quand même des fonds de pension, ce sont des banques.
Ce sont des algorithmes.
Oui, enfin je sais pas, ça s'appelle un algorithme, ça. Bon, je les voyais pas comme ça, les algorithmes.
Ils font des comptes, quoi. Ce sont des codes, des clics à la nanoseconde, et malgré tout, il y a de l'intelligence artificielle derrière qui organise des critères, qui met en place.
Et justement, dans la détermination de ces critères, qu'on devrait pouvoir intervenir. C'est là qu'est le problème. L'algorithme, ce n'est qu'un outil.
Sur quelle logique est organisé l'algorithme ?
Voilà, c'est ça le problème. Nous sommes d'accord. Le problème que nous avons, c'est que nous voulons nous raccrocher à nos modèles anciens et nous voulons voir les 100 familles derrière les 100 clics. Mais en réalité, non, mais je ne parle pas à Millard, je parle de manière générale, on renvoie toujours, on a besoin d'une intentionnalité de quelqu'un qui ferait le mal. Mais en réalité, vous vous souvenez de cette histoire quand Ben Laden plaçait du fric sur les places européennes et que beaucoup d'investisseurs sur la City à Londres avaient créé un algorithme pour se caler tout de suite sur ce qu'il faisait, quitte à amplifier son mouvement. Et ils l'ont fait pendant des années, en sachant très bien qu'ils finançaient ainsi un terroriste et qu'ils déstabilisaient leur propre système. Donc il y a une intentionnalité complètement folle quand même derrière tout ça. Et je crois que le politique s'est aperçu, et les dernières crises nous l'ont montré, que si on ne réinstaurait pas, encore une fois, je suis lourd, un jeu à trois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas associer le producteur à la technofinance, ce n'est plus possible. Je me souviens des propos de Lachman, le PDG de Schneider, quand il a pris sa retraite, où on lui a dit « vous avez été un grand patron ». Il dit « je n'ai pas été trop mal, simplement je n'ai fait que la moitié de ce qu'un producteur normal aurait fait si je n'avais pas eu des actionnaires de la technofinance ». Voilà, c'est quand même ça qui est en jeu, un peu pour tout le monde, et ça, c'est le vrai enjeu de la démocratie, pour le coup.
Mais est-ce que c'est véritablement un enjeu ou est-ce que c'est quelque chose d'aujourd'hui remédiable compte tenu du poids de cette technocratie, de cette technofinance ?
J'en sais rien.
Je pensais que vous saviez.
Mais en tout cas, il faut faire le pari de la lutte, non ?
Voilà.
Oui, voilà. C'est très impressionniste ce que je veux dire. Pour le coup, faudrait pas que la technofinance soit cette espèce de personnages obscurs dans l'arrière boutique qui tirent les ficelles et qu'on ne pourrait pas atteindre. Quoi. Je veux dire,
il ne faut pas que ça soit ça non plus.
Voilà. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parle de technofinance, c'est la façon dont fonctionnent les fonds de pension américains sont effectivement organisés autour d'algorithmes, mais la logique qui les a structurés est une logique réellement politique différente d'autres...
Ouais. Qui les a structurés initialement, mais aujourd'hui,
ils ont structuré. Ah, mais bien sûr, mais sur une logique qui est une logique qui est différente de d'autres types de logiques. Je veux dire, sur par exemple le système de retraite. Voilà. Je veux dire, un fonds de pension américain, c'est une assurance à laquelle, en gros,
on n'a pas besoin.
Le retour est financier et individualisé. Bon, voilà.
On n'a peut-être pas besoin d'aller chercher les fonds de pension américains, d'aller chercher si loin. Prenons plus près. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Poult?
Oui.
Qu'on a connu ici, sur lequel moi-même, dans une autre vie et professionnellement, je suis intervenu, eh bien, l'entreprise Poult était détenue par un fonds d'investissement qui s'appelle Calium, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et conciliations. Et Poult avait un management très, très particulier, avec une immense autonomie laissée aux salariés, avec des rapports complètement différents. Ils étaient précurseurs là-dedans. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Calium, filiale de la Caisse des dépôts, qui était l'actionnaire majoritaire de Poult? En 2016, elle a exigé, et c'est pas vieux, 2016, que cette entreprise cesse complètement cette espèce de libération qui avait commencé 10 ans plus tôt et ses méthodes de management. On n'est pas allé chercher les Américains. Et la Caisse des dépôts, c'est l'État.
Oui, d'ailleurs, ils sont en train de... J'ai l'impression de retravailler la Caisse des dépôts, il m'a semblé.
Oui.
Bien, écoutez, moi, c'est une question... Il va falloir que l'on observe ça. Je pense qu'on y reviendra. C'était aujourd'hui, finalement, une espèce d'introduction pour placer un décor, parce que...
Oui, on devait parler du travail. Finalement, tout ça est lié.
Oui, tout est lié. Alors, on voulait également parler, mais le temps nous a un peu compté, mais on peut en dire quand même un mot assez rapidement, de l'égalité homme-femme en termes de poste.
Le 8 mars est passé, il n'y a plus de problème.
Il n'y a plus de problème, oui. Alors, vous savez que la première loi sur l'égalité salariale homme et femme, je ne sais pas si vous le savez, est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année, une stricte égalité avec des amendes à la clé pour les récalcitrants. C'est assez fabuleux. Mais je ne vous ai pas tout dit, ce n'est pas en France, c'est en Islande que ça existe. Donc, nous, on a déjà légiféré il y a longtemps, on a dit à travail égal, salaire égal, on a des lois qui le disent abondamment, on a le traité de Rome qui affichait le principe, mais vous savez que ce n'est absolument pas appliqué, qu'aujourd'hui nous avons des écarts de salaire, pour ne parler que, parce que l'évolution des carrières n'est bien sûr pas la même, mais nous avons des écarts de salaire de 24%. Comme disait Françoise Héritier, qui nous a quittés récemment, l'inégalité des sexes n'est pas un fait de nature, mais bon, ça reste quand même très théorique. Une remarque là-dessus, Jean-François Mignard, non, ça ne vous inspire pas ?
Je disais en plaisantant, de façon vraiment avec beaucoup de mauvais goût, sur le fait que le 8 mars, c'est...
le 8 mars, étant passé, tout est réglé. C'est parce que on en a parlé. Moi, j'ai par exemple participé à une réunion avec un grand syndicat national autour de la question de l'égalité homme-femme dans l'entreprise, et entre autres avec la question qui était la question des salaires. C'est quelque chose qui est effectivement structurel, culturel, qui fait que d'une part, je pense quand même que ça, c'est moins pire qu'avant, ce qui est, j'allais pas dire ça s'arrange parce que c'est pas forcément le truc pertinent, mais c'est quand même moins pire qu'avant. Il faudrait regarder statistiquement, mais je pense que les écarts sont en train de se rapprocher, hein, ou de s'amincir. Mais pour autant, c'est aujourd'hui devenu un peu plus insupportable qu'avant, cet écart-là. C'est bien, mais faut continuer. Voilà. C'est un problème qui est un problème de rapport de force interne, qui va passer, mais bon, par la capacité. Mais je pense qu'aujourd'hui, un bon nombre de femmes ont cette capacité-là de s'auto-organiser pour pouvoir revendiquer là-dessus. Sur la capacité que ça puisse aussi déborder sur du côté des hommes.
Alors, elles ont un peu de mal à revendiquer quand même. Il y a même des associations qui les accompagnent pour préparer, comme on dit maintenant, les éléments de langage, pour essayer de les préparer à une négociation qui n'est pas évidente du tout. Et il en va de même dans la fonction publique. Si vous regardez l'ENA, une femme ne fera pas la même carrière qu'un homme. Si vous regardez les cabinets ministériels, les femmes sont hyper minoritaires, même chez M. Macron.
Oui, alors, sans faire le cuistre, c'est les gender studies, maintenant, ont largement documenté cette affaire-là, avec les théories autour du plafond de verre et les discriminations liées au genre. Bon, voilà. Je ne sais pas si on peut en dire tellement plus que ce qu'on est arrivé à en dire aujourd'hui en termes d'analyse sur ce qui est en train de se passer. Enfin, sur ce qui se passe, hein, en termes sur la discrimination systémique qui fait que... peut-être que les gens prennent de plus en plus conscience que c'est pas une inégalité, y compris qui est une inégalité revendiquée, voulue, c'est-à-dire que les gens ne sont pas sexistes, mais quand on regarde, effectivement, naturellement, comme dirait tout bon sociologue, sait que quand on trouve que c'est naturel, c'est forcément culturel, ces choses-là arrivent, il se fait que... Pourtant, personne là-dedans n'a de responsabilité qui est une responsabilité individuelle à qui on pourrait dire « celui-là est un salaud de sexiste ». Voilà. Il applique les règles du jeu, et les règles du jeu font qu'effectivement, les femmes en bout de course se font plumer au niveau salarial. Il faut changer effectivement les règles du jeu. Et il faut changer les règles du jeu. C'est compliqué parce que ça, moi, tout en ayant une conception un petit peu universaliste de ce genre de choses-là, défendons les femmes en faisant avancer le standard qui est le standard de tout le monde, pas au détriment des hommes.
Bien, ben écoutez, je pense qu'on reviendra peut-être, on observera, et peut-être un jour on sera amené à revenir sur cette question. Je vous propose d'aborder l'avant-dernière séquence de notre émission de ce jour, le « Ça va mieux ». Alors, ça va mieux. Bon, il y en a un que j'ai éprouvé hier. Si, le fonctionnement de la justice, finalement, hein, moi, qui est important pour moi, vous savez, en tant que juriste et que professionnel du droit, j'ai été quand même assez satisfait de voir qu'un président de la République pouvait être mis en garde à vue. Non pas que je me réjouissais de cet état de choses, non pas que je veuille dire par là qu'il est coupable. Vous savez qu'il est présumé innocent et qu'il a cette présomption d'innocence à laquelle il faut rester attaché. Mais bon, ça peut être donner un signal aussi que, selon que vous soyez puissant et misérable, et peut-être qu'aussi des puissants, aujourd'hui, peuvent tomber. Bon, il a eu quand même un traitement de faveur, puisque au bout d'un certain nombre d'heures, il a quand même été autorisé à retourner dormir chez lui, alors que normalement, vous dormez en cellule, c'est-à-dire sur un banc de béton, dans des conditions absolument épouvantables, ce qui attendrit la viande, comme l'on dit. Il a été autorisé à revenir chez lui pour être interrogé ce matin. Bon, c'est déjà un pas, peut-être. Un président de la République en garde à vue, on n'a pas forcément à s'en flatter sur le plan politique, sur le plan du droit, et peut-être d'une certaine égalité du droit. Voilà, c'est une petite éclaircie dans des nuages un peu épais. Jean-François.
Oui, alors la coexistence de l'émission fait que c'est marrant comme il y a des convergences. J'en avais deux en tête, mais ils sont liés très directement à ce qu'on a pu lire. J'avais en tête l'Islande et l'histoire du projet de loi, de la loi votée concernant l'égalité obligatoire entre les hommes et les femmes, que je considérais que c'était ça mieux. Et alors, donc celui-là, il a déjà utilisé, mais j'en ai un autre qui est lié à l'affaire Sarkozy, pour ne pas le nommer, qui est que ça va mieux parce qu'une partie de notre personnel politique, plutôt à droite mais des fois à gauche, vient de redécouvrir le principe de la présomption d'innocence. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que moi, je suis très attaché à suivre des tas d'affaires depuis des tas d'années, dans lesquelles il suffit d'être jeune des banlieues, Corse, la même personne avait pas du tout, avait été, par exemple, Nicolas Sarkozy ne s'était jamais embarrassé de présomption d'innocence en disant on vient d'arrêter l'assassin du préfet Erignac, voilà. Et bien là, il y a des gens qui, ça n'avait posé aucun problème à ses proches politiques, là, une partie du personnel politique est en train de redécouvrir la présomption d'innocence. Je pense qu'il progresse, sera effectivement. Ça ira vachement mieux le jour où les magistrats appliqueront l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est-à-dire qu'un président de la République passera effectivement la nuit en garde à vue comme Mohamed du Mirail ou Dominique de Sartène.
Pierre Larouille.
Oui. Je reballe sur Mignard. Pour en juger, on va attendre de savoir quand l'ex-président sort, dans quel état et comment il est traité médiatiquement. Parce que le critère de la présomption d'innocence, aujourd'hui, passe quand même beaucoup plus par les micros de BFM et d'ITélé que seulement par quelques volontés de...
J'évoquais ce qui y passe habituellement, quand même, devant les micros.
Vous reballez, mais vous trichez, et vous n'avez pas de « ça va mieux hein, ».
Mais si, si, alors je n'ai pas travaillé, mais j'ai un « ça va mieux » qui va donner un peu de légèreté. Et en plus, j'ai un rebond, mais qui est ovale. Enfin, le 15 de France va mieux, puisqu'il a gagné son match. Et surtout,
bravo,
le stade toulousain, quand même, est aussi en pleine renaissance, puisque c'est un terme à la mode un peu partout.
Allez, séquence culturelle dont moi je vais vous parler de ce que j'ai sous les yeux, de ce dont nous avons parlé. C'est le dernier numéro de la revue Esprit, c'est le numéro de mars, qui est intitulé « Démocratiser l'entreprise » et qui permet d'aller plus loin sur les questions que nous avons effleurées aujourd'hui et sur laquelle nous reviendrons. Et puis vous verrez, il y a également bien d'autres rubriques fort intéressantes. Une annonce, à moins que Jean-François vous la ferez, celle de... il va la reprendre, mais il y a un débat samedi 24 mars à 14h30, salle Ernest Renan, qui, comme vous le savez, est située dans le quartier des Isards, laïcité d'hier et d'aujourd'hui, et qui va être animé par Michel Tubiana, qui est avocat et président de la Ligue des droits de l'homme, mais Jean-François va en dire un mot, et Zouina Medour, qui est une militante du quartier, et certainement très empreinte sur ces questions.
Oui. C'est un débat qui est un débat qu'on a voulu... Quand je dis « on », c'est parce que c'est fait en commun avec des associations qui sont des associations de quartier et en l'occurrence la Ligue des droits de l'homme, de façon à ce que cette question-là elle soit débattue dans des endroits dans lesquels elle est en règle générale problématique et très peu débattue par des gens qui sont très directement touchés par ça. Ça se répand beaucoup dans les ondes ou dans les journaux ou dans les revues, cette question de laïcité portée par des gens qui ont un discours dans la série plus de laïcité que sa tumeur et qui d'ailleurs, ce faisant, viennent désigner un certain nombre de gens qui sont déjà dans les quartiers d'habitat social. Là, on va essayer de voir avec eux comment on peut réfléchir et parler de ce genre de choses. Alors, moi, j'avais un conseil culturel par ailleurs qui était que le mercredi 28 mars, vous avez le réseau étudiant des étudiants toulousains en soutien aux exilés et réfugiés, qui est un réseau assez exemplaire d'étudiants qui sont d'ailleurs pour beaucoup certains de Subdoco à Toulouse et qui développent tout un travail, et de Sciences Po d'ailleurs, qui travaille auprès des réfugiés, qui fait une expo photo et une conférence donc le 28 mars à 18h qui s'appelle Les visages du monde, et ça se passe à la Business School au 20 boulevard Lascrosse. Allez-y, j'ai vu quelques photos, c'est sympa et c'est des gens qui font un énorme travail depuis des mois.
Pierre Larouille.
Oui, Puisqu'on évoquait le cinquantenaire de 68 tout à l'heure et que j'essaie d'écrire un tout petit peu sur ce sujet pour les jours prochains, je relisais « Traiter le savoir-vivre à l'usage des jeunes générations » de Raoul Vanhaeghem. Je pense que c'est d'une actualité cuisante par rapport à toutes nos discussions. Je crois que ça vaut la peine de s'y repencher. Et puis, je dirais que la semaine dernière, j'ai visité le Musée d'art contemporain de Barcelone où il y a une œuvre fantastique de Torres sur la mémoire.
Merci à Jean-François, merci à Pierre. Aux manettes, comme toujours, il y avait Jean-Louis Arzac. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook Esprit Occitanie ainsi que sur son site internet. Et nous nous retrouverons pour une nouvelle édition de Ça va mieux, mercredi en 15. Belle soirée à toutes et à tous. Adieu.